13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle semaine à vos côtés et avec moi pour vous écouter, pour écouter vos expériences de vie. Ma chère camarade Ombline, comment ça va ma
chère ? Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour, ici c'est votre heure, on parle de vos peines, de vos joies, de tout ce qui vous fait réfléchir et agir car votre vécu nous intéresse. Il n'y a qu'un secret pour plaire aux envieux, sembler être continuellement malheureux, disait Voltaire. Avoir une promotion, réussir sa vie de famille, gagner de l'argent, cela peut faire des jaloux. La réussite de l'un peut rendre envieux l'autre, parfois même au sein de sa propre famille. Alors que la réussite devrait inspirer, elle dérange et peut être mal interprétée. Pour certains qui en sont témoins, elle crée de la frustration. Pour d'autres, elle tient à distance, soit parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, soit parce qu'on est renvoyé face à ses propres échecs. Pourquoi la réussite ne réjouit pas forcément ? Peut-on transformer la jalousie en un moteur pour avancer ? Comment se préserver des médisances et des envieux quand la réussite dérange ? C'est notre sujet d'Europe 1 d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et on vous écoute au standard d'Europe 1. N'hésitez pas à composer le 39-21, 50 centimes la minute pour nous écrire Twitter, hashtag Europe 1 et évidemment via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Jordan sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jordan.
Bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 37 ans et je suis des Yvelines, plus particulièrement d'à côté de Versailles.
D'accord. Alors Jordan, nous allons voir avec vous combien votre réussite vous a valu de nombreuses remarques, aussi bien dans votre cercle professionnel que de la part de votre cercle personnel. En 2012, vous avez eu envie de quitter votre travail pour vous lancer à votre compte. Ça a commencé par un blog. Dans quel domaine exactement ?
Alors c'était un blog à la base dans lequel j'ai inscrit toutes mes progressions et puis tout naturellement il y a une communauté qui a commencé à se créer autour de ces progressions-là et ma progression c'était dans le cadre de l'atteinte d'un objectif qui était de changer de vie en 365 jours à la suite d'un burn-out parce que j'ai fait le classique burn-out. Donc je me suis promis une chose parce que si à 30 ans je fais un burn-out, je me dis qu'est-ce que ça va être à 35, 40 ou 50 ans. Donc j'ai décidé de prendre la décision de changer de vie et c'est passé par une autre forme de travail qui est l'entrepreneuriat.
Alors c'est un super beau projet hein, de changer de vie, il faut avoir du courage, il faut avoir de l'énergie, surtout quand on sort d'un burn-out, comme vous le dites. Comment ont réagi d'abord vos collègues de travail lorsqu'ils ont pris connaissance de ce blog ?
Alors certains collègues de travail, ils ont trouvé ça rigolo. Bon, il y en a quelques-uns qui associaient ça à l'époque au Skyblog, alors que c'était un vrai site en soi avec des articles, des billets d'articles. Et j'avais un collègue en plus particulièrement qui me disait de toute façon ça sert à rien du tout ce que je suis en train de faire, ma démarche elle ne sert à rien, dans un an je serai toujours là. Et ironiquement c'était une personne qui elle aussi passait dans tous les bureaux pour raconter que dans 6 mois elle serait plus dans cette boîte et qu'elle serait prof de sport de combat au Canada. Or en l'occurrence juillet 2013 moi j'ai quitté la boîte, lui il était toujours là.
Votre blog a eu du succès pratiquement immédiatement hein, mais on vous a dit que vous vous berciez d'illusions, comme vous venez de le dire, de ce collègue qui, lui, est resté dans la boîte et que vous n'y arriverez pas. Comment expliquez-vous de telles remarques et si peu de soutien face à un projet qui est somme toute séduisant et puis j'ai envie de dire qui ne fait mal à personne ?
Moi, je pense que d'une certaine manière, ça les renvoie à eux-mêmes parce que moi, j'ai tendance à dire que il y a une forme de contradiction entre le jugement social qu'on va poser et puis l'envie de la personne. C'est-à-dire que le Français, il est comme tout le monde, hein, il a envie de réussir, il a envie de changer de vie, il a envie de faire de l'argent.
Il veut un peu tout, le Français.
Mais par culpabilité ou par peur ou même parfois par flemme, hein, on va pas le faire. Et ce qui a sa portée, c'est les reproches à l'encontre de ceux qui réussissent. Et ça les renvoie, ce que je disais tout à l'heure, ça les renvoie d'une certaine manière à leurs propres conditions, oui, à leurs propres manquements vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc il va projeter sur lui, enfin sur les autres personnes, quelque chose qui est refoulé en lui. Et être jaloux de ceux qui ont ce que l'on n'a pas, d'une certaine manière.
C'est assez étonnant ce que vous racontez parce que ça me fait penser à un joueur de foot qui était le capitaine de l'équipe de France et qui s'est cassé le tendon d'Achille qui jouait à Arsenal. Alors son nom m'échappe, mais qui un jour avait témoigné après la Coupe du Monde et qui évoquait combien En fait, il aurait souhaité que son équipe ne soit pas championne du monde et que ça lui avait créé une certaine, vraiment une frustration. Et ça me fait penser un peu à votre histoire, ça. C'est-à-dire des gens qui ne se réjouissent pas de la réussite des proches, puisque on voit que dans votre cercle personnel, ça a aussi dérangé. Et votre conjointe, qui n'y croyait pas du tout non plus, elle vous disait quoi ?
Alors mon ex-conjointe, hein.
Votre ex-conjointe, oui.
Bah en fait, elle me disait ce que la plupart des personnes que j'accompagne aujourd'hui, parce que je suis coach en reconversion professionnelle, et ça arrive que beaucoup de personnes que j'accompagne aujourd'hui vivent la jalousie ou se retrouvent, en général, la jalousie, elle se retrouve sur le chemin des personnes qui ont des projets de reconversion professionnelle. Ça a été mon cas, ça a été le cas aussi d'une cliente dernièrement qui a justement vécu aussi un burn-out, et je l'ai récupérée à la petite cuillère. Elle a vécu la même histoire que moi, donc job bien payé, épuisement mental et démission sans rien derrière, et son partenaire n'a rien trouvé de mieux que lui faire remarquer que c'était une erreur, il la faisait culpabiliser et il la soutenait pas du tout. Et je pense que c'est la pire des choses d'être avec une personne qui ne vous soutient pas par jalousie ou même par souci de bienveillance, en se disant que voilà, le choix que tu vas faire, c'est de l'inconnu, tu sais pas ce que tu gagnes, mais tu sais ce que tu perds, etc. Et d'une certaine manière, ouais, c'est de la jalousie. Donc moi, j'étais avec une personne qui me soutenait pas, qui comprenait pas que je puisse mettre fin à un CDI bien payé pour me lancer dans ma propre activité, ce qui était beaucoup plus cohérent parce que j'étais pas du tout heureux en tant que salarié. Bah, c'est une personne avec qui j'ai mis fin, parce que je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais mis fin à cette relation, mon activité, elle a décollé à ce moment-là, ironiquement.
Alors, on va continuer à parler dans quelques instants de votre histoire. Nous allons voir que vous avez eu peu de soutien de la part de votre frère aussi, de cette conjointe, parce qu'on en reparlera, parce que elle vous disait même que vous ne méritiez pas votre réussite. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez quelle explication elle vous donnait à l'époque, et puis on parlera de l'ambition et du courage qui était le vôtre, mais qui semblait dérangé. On se reparle d'ici quelques instants, Jordan.
Europe 1. Quand la réussite dérange et dérange parfois nos proches, c'est ce qui vous est arrivé. Vous nous racontez votre histoire, votre parcours au 39-21 pour nous envoyer vos messages. Il y a le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, vous composez le 39-21. Pour ne pas souffrir du jugement des autres, vous avez préféré taire votre succès. Il vous est arrivé d'envier aussi la réussite d'un proche, d'un collègue. Vous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Jordan en ligne, qui nous expliquait qu'après un burn-out et dans une boîte bien payée visiblement, Jordan, mais avec un travail qui vous a totalement épuisé jusqu'au burn-out, vous vous étiez lancé dans le projet d'un blog 365 jours pour changer de vie, et que cela avait suscité aussi bien auprès de vos collègues de travail que dans votre milieu personnel, y compris votre ex-conjointe, une certaine jalousie, on peut le dire, et puis de drôles de sentiments. Lorsqu'elle vous disait, cette conjointe, que votre ex-conjointe, que vous ne méritiez pas votre réussite, je trouve ça assez formidable, ne pas mériter votre réussite. Elle entendait quoi par là ?
Écoute, ça c'est quelque chose qui est, à mon avis, enfin de mes souvenirs, hein. En gros, elle me faisait le reproche d'avoir des facilités. C'est-à-dire que, je pense qu'on sera tous d'accord, on a trop tendance à se dire que pour réussir, il faut se taper la tête contre les murs, il faut que ça soit difficile, etc. Or, en l'occurrence, pendant toute la période où j'ai développé des compétences techniques ou des connaissances pour faire naître un blog et puis toute une communauté autour, je m'en suis servi pour pouvoir lancer ma propre activité. Oui. Donc, j'avais eu certaines facilités pour obtenir des résultats. Au bout de 2 mois, j'avais déjà mon premier client, etc. Mais c'était pas suffisamment pour elle, et au lieu d'être dans l'encouragement ou d'être heureuse par rapport à ce qui m'arrivait, de bien par rapport à mes résultats, c'était toujours des remarques: quand est-ce que tu te payes, quand est-ce que tu te mets à te verser un salaire décent, etc. Donc il n'y avait jamais de célébration de mes avancées.
On sent qu'il y avait comme une envie aussi de vous garder, de vous maintenir au même niveau, parce que vous élever, changer de vie, on entend que c'était une jalousie vis-à-vis de peut-être une prise de liberté, puis de vous voir vous échapper. Votre frère aussi, dont vous n'avez absolument pas, vous l'avez vraiment gardé en dehors de cette histoire, ce frère. D'abord, vous lui avez caché votre succès, et puis lorsque vous avez lancé une campagne de financement participatif, vous aviez bien fait de ne pas lui cacher, visiblement, puisqu'il n'y a même pas participé. Pourquoi un frère réagit de la sorte, à votre avis ?
Bon, peut-être parce qu'il a toujours infantilisé et que ça le faisait bizarre aussi de voir que son petit frère obtenait des rendez-vous avec des entreprises ou obtenait des résultats. Après, comme beaucoup de personnes, moi j'ai toujours eu des projets, j'ai toujours eu des objectifs et j'ai toujours été très actif et je me laissais jamais abattre. C'est important de développer, je pense, et c'est ça le plus important, oui. C'est de développer une capacité de résilience, une capacité de rebondir. Et c'est ça aussi qui fait la force, parce que je vais souvent au Québec et c'est ça aussi que j'ai retenu des Québécois parce que je m'étais formé là-bas. Donc c'est important de toujours avoir de nouvelles idées, trouver des solutions et voir les choses d'une manière objective. Et mon frère, je me souviens, je lui avais pas dit que j'avais un blog au moment où j'avais commencé à bloguer. Par contre, je lui dis peut-être 8 mois plus tard. Quand je lui dis, et je savais très bien qu'il allait avoir une réaction comme ça, il s'est un peu moqué de moi en disant t'as un blog, toi. Mais quand je lui dis qu'il me rapportait tant par mois, là, ça l'a fait réfléchir. Mais si j'avais vraiment quelque chose de très important à dire sur le fait de parler de ses intentions d'entreprendre quelque chose, de se lancer dans un projet, c'est qu'il faut pas en parler à n'importe qui. Oui. C'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes, elles se dégonflent quand elles parlent de leur projet.
Alors ça dépend où, hein, Jordan, parce que vous faites référence au Québec, donc parce que vous êtes parti plusieurs fois au Canada pour apprendre votre nouveau métier, et vous dites que là-bas, le rapport à la réussite et à l'argent est tout autre. Comme aux États-Unis d'ailleurs, les gens semblent décomplexés et beaucoup plus ouverts à l'entreprise, hein, entreprendre, avoir des idées et puis réussir. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui ça vous a forgé cet esprit de compétition et puis d'entrepreneuriat et puis de réussite surtout qui n'est pas critiqué aux États-Unis ou au Canada, mais qui est plutôt admiré, parce que j'ai l'impression que la réussite, on peut parler d'argent au Canada. Alors qu'en France,
oui, on peut parler d'argent. Alors qu'en France, non, pas du tout. Ouais, bah c'est bon. Après, je pense qu'on fait tous un peu le même constat. Hein. Il n'y a pas que ça. Mais de manière simpliste, c'est la culture catholique qui rend suspect toute forme de succès et de réussite. Ce qui est l'inverse de la culture protestante. Enfin, ils sont pas tous protestants au Québec. Hein. Il y a une petite partie, mais ils le sont beaucoup aux États-Unis et qui eux valorisent le succès et la réussite. Donc, si tu réussis, c'est un don de Dieu d'une certaine manière. Alors qu'en France, c'est presque un péché. D'ailleurs, il n'y a qu'à aller voir la différence entre la manière de parler par rapport au Québec. Les Québécois, ils vont dire on va faire de l'argent, c'est la traduction de make money, alors qu'en France, on va dire on va gagner de l'argent, comme si l'argent, on ne le méritait pas, ou c'était quelque chose qui était vraiment sale. Alors que, faut bien être clair, hein, la réussite, ça ne se limite pas uniquement qu'à l'argent, mais l'argent, c'est un indicateur de réussite. Moi, mm-hmm. Je sais que l'argent que je vais faire va me permettre de continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Je pense que les gens ne sont pas des envieux de celui ou celle qui a vraiment de l'argent, mais de ceux et celles qui arrivent à se réaliser, à construire quelque chose en fonction de leurs désirs.
Oui, il n'est pas que question d'argent dans la réussite, d'ailleurs, je l'évoquais au début de cette émission. D'autres sont jaloux de la réussite familiale, de la réussite tout court, en fait. On peut rencontrer des gens qui sont jaloux simplement que vous soyez heureux, que vous soyez optimiste. Nous faisions une émission l'autre jour, hein, on bline là-dessus.
Oui, c'est optimiste.
Des gens peuvent être jaloux de quelqu'un qui voit la partie pleine du verre plutôt que la partie vide. Mm-hmm. Ah, il est heureux. Ah, ça m'envoie à moi, avec mes petits problèmes, mes tout petits problèmes. En tout cas, merci beaucoup, Jordan, d'avoir partagé votre histoire avec nous, qui pose vraiment bien les bases de cette jalousie que peut provoquer la réussite. Et pour vous, c'était celle d'une réussite professionnelle, donc faire de l'argent. Écoutez, si je passe à Montréal et qu'on se croise, on ira snacker ensemble, comme on dit, et on parlera de réussite ensemble, mon cher Jordan. Pour mieux comprendre pourquoi la réussite peut parfois déranger et comment réagir, nous allons accueillir Nathalie Rapoport-Hupschmann. Elle est médecin psychothérapeute et a notamment écrit l'ouvrage « Apprivoiser l'esprit, guérir le corps, stress, émotions et santé » disponible aux éditions Odile Jacob.
Europe 1. Vous aussi, comme Jordan au 39-21, vous avez dû faire face aux remarques désobligeantes, aux comportements peu bienveillants ou à la jalousie de certains quand vous avez rencontré un succès, professionnel ou non. Vous nous racontez au Standard Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous avez été déçu quand en lieu et place de la fierté, vous avez lu dans le regard de votre interlocuteur de la jalousie à l'évocation de votre réussite. Comment profiter de son succès sans blesser et sans paraître vantard? Vous nous racontez. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Nathalie Rapoport-Hupschmann, médecin psychothérapeute et auteur de l'ouvrage « Apprivoiser l'esprit, guérir le corps, stress, émotions et santé » disponible aux éditions Odile Jacob. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Alors, on vient d'entendre le cas de Jordan, qui était pour moi très parlant. Sa réussite a poussé des personnes de son entourage dans leurs propres contradictions. Pourquoi ne peut-on pas se contenter d'être heureux pour quelqu'un? C'est dans la nature humaine d'être jaloux de la réussite de l'autre?
Mais c'est dans la nature humaine d'avoir en soi des émotions un peu contradictoires, qui sont à la fois positives et négatives, désagréables, qui nous tirent vers le bas, un peu comme si en fait, eh bien, la réussite, c'était une sorte de gâteau dont on nous prenait une part, alors que, bien évidemment, l'autre peut réussir et nous aussi. Mais on a tous en nous, quelque part, parfois caché, parfois beaucoup plus apparent, finalement, ces sentiments qui sont assez toxiques, hein, d'envie et de jalousie, quand les autres, qui sont parfois même très proches, on l'a vu dans l'exemple de Jordan, eh bien, réussissent, oui.
On dit aussi qu'en France, notamment, et certains ont pu, qui nous écoutent ont pu le vivre, la réussite financière dérange. On ne peut pas parler d'argent en France sans que ça éveille des jalousies. Pourquoi ?
C'est vrai. Ouais, Jordan le disait bien, il y a à la fois l'aspect tabou, c'est pas un sujet qu'on aborde, hein, l'argent en France, on le sait bien. Alors que c'est très différent dans les pays de culture anglo-saxonne. Donc, on n'en parle pas. Et c'est comme si, finalement, il y avait une sorte d'absence de moralité qui était attachée au fait de réussir sur le plan financier. Mais c'est pas le cas partout. Donc, par contre, en France, c'est accepté socialement, finalement, d'avoir cette espèce d'attitude négative par rapport à la réussite financière, et je pense que c'est bien dommage parce que finalement ça nous tire tous plutôt vers l'arrière ou vers le bas, sans faire de l'argent une valeur, mais en tout cas on pourrait bien évidemment apprendre à voir la réussite de manière plus positive.
La jalousie peut-elle être un moteur à votre avis? Peut-on la transformer en quelque chose de plus sain?
Je pense que qu'on a intérêt à faire, en fait, quand on se sent jaloux, c'est essayer de faire un peu le tri. C'est-à-dire que il y a dans la jalousie ou dans l'envie une sorte de motivation, d'aiguillon qui peut nous pousser à aller plus loin, à essayer de réussir davantage.
Oui.
Mais c'est souvent brouillé dans, justement, tous ces sentiments négatifs que Jordan décrivait très bien, hein, dont vous avez discuté avec lui. Donc, ça peut éventuellement être un moteur, une force. Non, je ne pense pas.
Peut-être un déclic, en tout cas. Vous avez aussi écrit dans votre ouvrage « Les barrières invisibles dans la vie d'une femme » aux éditions Albin Michel, qu'on a parfois l'impression que la réussite d'une femme est encore plus mal vue que celle d'un homme. Est-ce que vous confirmez cela et pourquoi cela ?
Oui. Écoutez, parce qu'en fait, pour les femmes, alors la réussite, on l'a vu, hein, c'est parfois complexe pour tous, mais dans le cas des femmes, en fait, on a souvent des doubles standards, c'est-à-dire qu'on attend des femmes qu'elles se conforment à certaines idées qu'on a d'elles, qu'elles soient gentilles, agréables, qu'elles fassent passer les besoins des autres avant les leurs, les objectifs des autres avant les leurs. Donc, quand on voit une femme qui réussit et qui donc a fait passer, par définition, certains de ses objectifs avant ceux des autres, eh ben, ça peut être très mal vu. Et on sait bien, il y a des tas d'études qui montrent que, dans le cas des femmes, les sentiments négatifs vis-à-vis de leur réussite sont beaucoup plus fréquents que dans le cas des hommes. Donc oui, c'est encore plus complexe.
Nathalie Rapoport-Hupsman, je rappelle que vous êtes médecin, psychothérapeute et auteur de l'ouvrage « Apprivoiser l'esprit, guérir le corps, stress, émotions et santé » disponible aux éditions Odile Jacob. Vous allez continuer à nous accompagner de vos éclairages. Dans quelques instants, nous accueillerons Laure. Lorsqu'elle a appris que sa meilleure amie avait une promotion, elle s'est sentie jalouse. Elle a essayé de comprendre pourquoi.
Europe 1. Certains de vos proches ont eu du mal à se réjouir de votre réussite. Comment vous l'expliquez? Qu'avez-vous ressenti? Vous nous racontez sur Europe 1 et vous nous dites pourquoi, selon vous, la réussite peut déranger au 39-21.
Europe 1.
Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la difficulté parfois de savourer sa réussite sans heurter les autres, sans susciter de la jalousie. C'est un sentiment que vous avez déjà ressenti. Vous nous racontez au 39-21. Ava Max est sur Europe 1 avec Sweet But Psycho. Sur la scène des chanteuses pop, il faut compter désormais sur Ava Max et c'était Sweet But Psycho sur Europe 1. Peut-on goûter son plaisir de la réussite sans susciter des sentiments négatifs de la part des autres, de ses proches? Vous nous racontez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et pour en parler, nous sommes maintenant avec Laure sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Laure.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 33 ans et j'appelle de Nantes.
D'accord. Alors, vous, Laure, il y a quelques années, vous avez réalisé ce qui vous semblait être le rêve d'une vie, travailler au Parlement européen. Sauf qu'au bout de 2 ans, vous avez voulu arrêter par choix. Vous dites que ce travail représentait pour vous, pour vos parents, la réussite totale. Qu'est-ce que cela voulait dire pour vous, ce travail et cette idée de réussite totale ?
Ce que ça voulait dire, c'était un job assez prestigieux dans un milieu de la politique où il n'y avait pas forcément eu de carrière dans ce domaine-là dans ma famille, même s'il y avait de l'intérêt pour la politique en local. Oui. Et donc je voyais bien qu'il y avait du respect. Et puis voilà, c'est le genre d'employeur où quand on dit qu'on travaille au Parlement européen, les gens ont des étoiles qui s'allument dans les yeux, même s'ils ne savent pas forcément à quoi ça va correspondre. Ils disent waouh, c'est cool quoi. Ouais. C'est forcément un job qui fait cool.
Il y a quelque chose d'assez prestigieux en plus.
C'est ça.
Alors en 2014, l'une de vos meilleures amies, vous a annoncé qu'elle avait eu une grosse promotion dans le domaine justement parlementaire. Et c'est alors que plusieurs sentiments se sont mélangés en vous. Lesquels d'abord ?
Bon, le premier truc, c'est que j'étais contente pour elle parce que voilà, elle était au téléphone en train d'annoncer ça et que ça se voyait qu'elle était hyper heureuse. Et après, ça m'a un peu pincé en fait. Ça m'a renvoyé à cette carrière que moi j'avais complètement, à laquelle j'avais complètement tourné le dos. Et oui. Je me suis dit, ah tiens, ça me renvoie à un choix que j'ai fait. Est-ce que j'assume complètement ce choix? Est-ce que si j'avais continué ou persévéré, je pourrais faire ce genre de boulot maintenant? En fait, ça m'a renvoyé à moi et à est-ce que j'assume vraiment complètement ce à quoi j'ai renoncé?
Mais là, vous me parlez de vous, en fait. On évoquait le fait que voilà, quand quelqu'un d'autre réussit à côté, en tout cas se réalise, ça peut provoquer des sentiments qui sont de l'ordre de nous renvoyer à nos propres échecs. Mais est-ce que ça dépassait ça ? Est-ce que même si vous étiez contente pour elle, il y avait quelque chose de l'ordre de la frustration et un peu de jalousie ? Comment vous le décririez ?
Ah ouais, carrément. Oui, carrément. Une forme de jalousie, de jalousie et de, je sais pas si c'est de la frustration ou si c'est ce que vous dites en fait, un sentiment de ah merde, est-ce que j'ai échoué quelque part en fait.
Ouais. Alors ce qui est bien, c'est que et ça je souligne vraiment votre intelligence et votre présence d'esprit parce que vous avez décidé d'en parler avec elle. C'est parce que ça montre combien vous teniez à cette amie. Comment a-t-elle réagi?
Elle a éclaté de rire. Ça l'a fait marrer parce que on sait toutes les deux pourquoi. Enfin, on est vraiment très proches, donc elle connaît très bien mon parcours. Elle savait très bien pourquoi j'étais partie aussi et le fait que aucune de nous deux avait aucun doute sur le fait que si j'avais le job qu'elle venait de décrocher, ça aurait été une catastrophe quoi. J'aurais pas du tout aimé ce job. Là où elle est vraiment à sa place. Et du coup, je lui ai dit avec honnêteté que ça me faisait ressortir de la jalousie et j'ai pas essayé de déguiser le truc en lui disant je suis super contente pour toi, machin. Je lui ai vraiment dit je suis super contente pour toi et ça me fout la mort.
ça vous a fait du bien de mettre des mots sur ce malaise que vous ressentiez ?
Je sais pas si ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de pouvoir le dédramatiser en parlant avec elle et de pas laisser ça en non-dit entre nous en fait.
Oui. Est-ce que ça a débloqué quelque chose en vous ? Est-ce que vous avez senti que, voilà, en parler, c'était déposer quelque chose ?
Honnêtement, je pense pas tout de suite. Sur le coup, c'était surtout préserver la relation avec elle qui était important pour moi.
Oui.
Mais ce que ça m'a fait voir après, avec un peu de temps de rebond, c'est que j'avais pas complètement fini d'assumer ce que j'avais fait, en fait.
Oui.
Et c'est là où c'est venu, où c'était hyper riche après pour moi, c'est que le fait de voir que je pouvais être jalouse d'un truc que je voulais pas, Si on le ramène dans n'importe quel autre domaine, c'est débile. Si vous adorez les épinards et que je déteste ça, mais mangez tous les épinards que vous voulez, ça serait hyper stupide d'être jalouse d'une assiette d'épinards.
Ouais, mais là, on ne parle pas d'épinards, et ça me fait penser à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Nathalie Rapoport-Hopschmann. C'est que la jalousie, je lui posais la question, je ne sais pas si vous avez entendu, si la jalousie pouvait être un déclic et un moteur. Et j'ai l'impression que dans votre cas, ça a quand même, alors peut-être cet incident-là plus que les autres, ça a déclenché quelque chose chez vous, parce qu'aujourd'hui, vous coachez des femmes entrepreneuses, notamment, entrepreneurs, à travers votre entreprise qui s'appelle Les Aventurières, et vous constatez que la réussite, de manière générale, rend envieux, jaloux.
En fait, je vois deux choses. Soit ça rend envieux parce qu'en fait, on veut quelque chose, on voit quelque chose chez l'autre qu'on a envie de créer dans sa vie et qu'on n'a pas osé poser.
Oui.
Donc là, c'est chouette parce que ça nous donne un indice sur quelque chose qu'on désire et bien on peut mettre ça en place. Soit on peut effectivement être jaloux de quelque chose qu'on veut pas parce que ça nous renvoie, et c'était mon cas là, à quelque chose qu'on n'assume pas. C'est-à-dire, je choisis d'être entrepreneur, par exemple, et j'en sais rien, il n'y a personne autour de moi qui est entrepreneur, donc je me sens très seule. Et quelque part, j'ai du mal à assumer face à mon entourage que j'ai choisi une voie très différente. Donc, je vais me retrouver être jalouse de personnes qui ont des vies plus dans les clous de ce que moi j'imaginais. Et dans ce cas-là, le déclic, c'est plus de dire j'assume complètement ce que je veux. Et comme ça, ça annihile la jalousie. Encore plus que d'en parler. D'en parler, c'est chouette pour maintenir la relation. Mm-hmm. Mais après, qu'est-ce que ça vient me raconter ? Est-ce que j'ai pas vraiment fini de choisir là où je suis ? Ou est-ce que je vois quelque chose que j'ai envie de faire ? Et dans ce cas, je peux le créer, je peux l'utiliser comme un moteur de création.
En tout cas, on a tous, j'entends ce que vous dites, et ça résonne assez en moi, on a tous eu, à mon avis, ce type de sentiment. Je pense notamment quand on avait des gens qui recommençaient une vie à l'étranger et qui nous parlaient de la liberté. Moi, je pense à un de mes copains qui vit en Thaïlande depuis 30 ans. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, il m'arrivait d'avoir ce type de sentiment en disant, moi quand même, je suis coincé en France, il pleut, pour tout un tas de raisons, je pouvais être un petit peu jaloux de lui. Et puis ça chemine après, et puis on transforme ça en autre chose. On se dit, en France, on peut ouvrir le journal tous les matins, Libération, Le Monde, Figaro, et puis on peut profiter d'autre chose. C'est-à-dire qu'on peut arriver à le transformer en autre chose et peut-être comparer nos situations et puis voir qu'elles ne sont pas si loin l'une de l'autre. Merci beaucoup, en tout cas, Laure, pour votre appel et votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Lucie lorsqu'elle est tombée enceinte. L'une de ses collègues n'a pas réussi à cacher sa jalousie. Selon elle, c'est surtout parce que cela l'a ramenée à ses propres échecs.
Europe 1. Quand exposé au monde, sa réussite devient un problème. Vos succès professionnels ou personnels ont été mal perçus. Vous êtes arrivé de vous montrer jaloux. Vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Pensez-vous qu'il est nécessaire de rester modeste pour profiter de son succès quand l'accomplissement professionnel, personnel, dérange ? Ça vous est arrivé ? Le 39-21 pour nous appeler, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Lucie. Bonjour Lucie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Lucie ?
J'ai 31 ans et j'appelle de la région de Binche en Belgique.
D'accord. Bonjour à la Belgique. Toujours aussi nombreux, les Belges, à nous écouter. Vous savez que je suis à moitié belge, je vous le dis en même temps.
Donc, je ne savais pas.
Vous le savez. Alors, Lucie, il y a 6 ans, vous êtes tombée enceinte. Vous étiez alors très proche, voire très très proche d'une amie qui était aussi une collègue de travail. Vous lui avez annoncé la bonne nouvelle, tout en sentant, à ce moment-là, que cela l'a gêné. Vous dites que cela se voyait, que ça lui faisait du mal. C'est pour ça que vous préférez ne pas parler de jalousie. Donc, qu'a-t-elle ressenti véritablement, à votre avis ?
Je pense que déjà une déception personnelle, parce que elle-même voulait avoir un enfant depuis déjà un moment. Malheureusement pour elle, son compagnon n'avait pas les mêmes priorités. Donc je pense qu'elle était déçue et à la fois fatiguée, parce que c'était plutôt une mauvaise période au travail. C'était quand même déjà la troisième fille du service qui tombait enceinte sur à peine un an de temps.
Oui.
Je pense qu'elle était fatiguée de toujours devoir faire semblant comme ça. C'est peut-être pas semblant, mais toujours se contenter d'être heureuse pour les autres alors qu'elle ne l'était pas, quoi.
On entend que vous compreniez sa réaction. On sent la, la solidarité féminine là, parce que j'ai souvent entendu parler hein, de ce type de rapport entre certaines amies, l'une tombe enceinte, l'autre n'y arrive pas, et on a ce type de réaction, et vous avez raison de dire que ça n'est pas de la jalousie, c'est plutôt, voilà, ce que vous venez de dire, c'est de la douleur.
Oui, plutôt de la souffrance morale, oui, je la comprenais en fait. C'est ça, c'est d'autant plus difficile qu'une simple explication, ça aurait pu changer un peu l'histoire. Ouais. Quoi.
Alors, vous avez appris au bout de 3 mois que vous aviez une maladie qui pouvait mettre en péril votre grossesse. Et là, son comportement a totalement changé. Elle est devenue plus gentille. Comment vous l'expliquez?
Je dirais peut-être pas forcément plus gentille, mais un peu plus sereine. Comme si l'éventualité que je puisse ne pas mener à terme cette grossesse était un peu comme un soulagement. Ça rendait un peu moins réelle la situation. Mais c'est... Et je pense aussi que c'est pour ça qu'elle a arrêté de me parler soudainement, parce que c'était sans doute plus facile pour elle de ne pas savoir ce qui allait se passer finalement.
Parce que c'est un peu moche quand même ça, de se réjouir quelque part qu'une grossesse peut être interrompue pour une maladie. Entendons qu'elle n'était pas jalouse.
C'était peut-être pas conscient ou volontaire, mais oui, je pense que quelque part ça devait l'aider un peu à accepter la nouvelle.
Comment vous vivez le fait qu'elle ne vous parle plus aujourd'hui?
Je l'ai très mal vécu pendant quand même assez longtemps, parce que je vous dis, moi, c'était quelqu'un dont j'étais très proche et je pensais pas que ça pourrait interférer à ce point-là. Et c'est surtout que c'était tellement brutal, je m'y attendais pas. J'aurais aimé au moins avoir une conversation avec elle à ce niveau-là. Mmh.
Alors on écoutait Jordan, qui, dans le cadre de la politique, une carrière parlementaire, disait qu'elle avait, elle, provoqué la discussion avec son amie parce qu'elle se dépatouillait mal de ce type de sentiments.
Oui,
et il est vrai que c'était...
Laure,
oui, pardon. Et donc, du coup, je pense que dans ces cas-là, vous avez raison de dire qu'il aurait été préférable que vous parliez. En tout cas, le bébé va bien, il est né depuis ?
Oui, elle a 5 ans, elle est en parfaite santé.
Eh bien, écoutez, c'est le principal. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Rebonjour à la Belgique et merci d'être si nombreux à nous suivre chaque jour, car vous êtes beaucoup à nous écrire de Belgique. Dans quelques instants, nous allons parler avec Sophia. Ouais. Elle était très jalouse de la réussite des autres, mais... on va voir qu'elle en a fait une force pour se surpasser, c'est dans quelques instants.
Quand la réussite dérange, le message sur Facebook de Peach, où l'art est la manière d'être jaloux, nous dit-elle, si on n'a ni tué ni volé personne, pourquoi la réussite dérangerait? Je suis en admiration devant la personne qui sont partis de rien et qui ont réussi.
Europe 1.
Vous n'avez pas pu vous réjouir de vos victoires sans récolter de la jalousie, voire des médisances. Vous échangez avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h au 39-21. Vous composez le 39-21 pour nous raconter à quelle réaction vous avez eu droit lorsque vous avez fait état d'un succès. Comment éviter que la réussite soit mal perçue? Vous avez été vous-même jaloux de la réussite d'un autre. Vous allez retrouver Olivier Delacroix et vous écoutez le duo Daisy avec Mama Told Me. C'est un duo qui nous arrive de Caen. L'album Better Days Are Coming Soon devrait sortir cet été. Oui, ça s'appelle Daisy et c'était Mama Told Me sur Europe 1. Quand la réussite dérange, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Sophia. Bonjour Sophia, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Sophia?
J'ai 37 ans et je suis à Toulouse.
D'accord, la ville rose. Vous avez inauguré le Zénith ce week-end.
Vous avez gagné en rugby aussi.
Ouais. Ça fait un beau week-end. Bon, sauf que moi, le Zénith de Toulouse, je l'aurais plutôt inauguré au nom de Claude Nougaro. Ça m'a fait un peu du mal au cœur, je vous l'avoue.
Oui.
Mais bon. Hein, on ne peut pas être parfait, cette belle ville de Toulouse est quand même magnifique. Pendant des années, Sophia, vous aviez des rêves, des envies, des ambitions professionnelles. Racontez-moi lesquelles.
Alors en fait, c'était des rêves plutôt artistiques.
Oui.
Je rêvais d'écrire des livres, d'écrire même des articles et d'être lue, de communiquer ce que j'avais dans la tête.
Oui.
Et je ne me suis pas autorisée pendant... des années, voilà, c'était un peu comme quand on est enfant et qu'on dit que plus tard je serai grand, quand je serai grand je ferai ceci. Là, c'était ça, pour moi, c'était des rêves qui ne me semblaient pas concrétisables.
Réalisables. Vous sentiez que vous n'y arriviez pas ou que vous stagniez en fait? Vous aviez peur de passer à l'action Est-ce que passer à l'action, c'était prendre le risque d'échouer, être témoin de la réussite des autres dans vos domaines de prédilection, ça pouvait faire naître en vous une peur de vous lancer ?
Oui, alors il y avait ça, puis il y avait aussi tout simplement le fait que c'était je les prenais pas au sérieux en fait, ces rêves-là. C'était un peu comme un fantasme,
oui.
Qui me faisait du bien quand j'y pensais, qui me faisait du bien, qui me faisait du mal en fait. Ça me faisait du bien quand j'y m'y projetais, mais après concrètement, ça me faisait du mal quand je me disais que je faisais rien pour les atteindre en fait, dans la vie quotidienne.
Je vois très bien. Et alors du coup, est-ce que vous avez essayé à un moment ? Est-ce qu'il y a eu un déclic où vous êtes lancé ?
Oui, en fait, le déclic, ça a été la naissance de mon fils.
Oui.
Parce que quand il est né, je me suis dit que ce que je lui souhaitais, c'était de réaliser ses rêves à lui, quand il sera plus grand. Et là, j'ai réalisé que pour qu'il ait quelque part un modèle à suivre, c'était à moi, en fait, de réaliser mes propres rêves pour lui montrer que c'était possible de le faire. Donc, c'est parti de là. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire, je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire partie de groupes sur Facebook, d'écriture, etc. Et sauf que dans ces groupes-là, il y avait des gens qui réussissaient, qui en vivaient,
oui.
De l'écriture ou d'autres, d'ailleurs, d'autres pratiques artistiques. Et j'ai commencé à être, en fait, super jalouse parce que ça avait l'air très simple pour eux, alors que pour moi c'était très très compliqué et c'était très compliqué et j'avais l'impression effectivement de stagner et de pas avoir de légitimité.
Et
en
est-ce,
fait.
Que, est-ce que cette jalousie, elle a été un déclic ? Est-ce qu'elle vous a boosté ? Est-ce qu'elle a été un moteur ?
Oui, alors j'ai mis un peu de temps avant de comprendre que cette jalousie que je ressentais, en fait, elle parlait de moi, de mes peurs à moi, et elle parlait pas du tout des personnes dont j'étais jalouse. D'ailleurs, certaines, je leur ai dit plus tard, parce qu'on est devenus plus proches, que j'avais été jalouse d'elles, mais en fait, que quand j'ai compris que c'était un problème qui venait de moi, que c'était mes peurs qui parlaient, je me suis donné les moyens, en fait, d'avancer.
Oui.
Et en me donnant les moyens d'avancer, j'ai complètement changé de vie en quelques mois. Ça a été pas mal de travail, mais du coup, j'ai quitté mon emploi, j'ai monté mon entreprise. Et en fait, cette jalousie du départ a déclenché des choses dans ma vie par la suite que j'aurais jamais imaginé, en fait, avant.
Oui.
Parce qu'à la base, je suis pas quelqu'un d'envieux du tout. Mais là, le fait que je sois jalouse de ces personnes-là, j'ai compris que vu que c'était pas mon tempérament, j'ai compris que ça venait vraiment toucher quelque chose de très profond en fait chez moi.
Et que ça venait toucher quelque chose de très personnel et puis peut-être quelque chose qui vous empêchait tout simplement d'avancer avant et que peut-être cette jalousie finalement vous a permis, comme vous nous l'expliquez, hein, de vous dire pourquoi pas moi, hein, eux ils l'ont bien et puis moi voilà. Et on va rester sur cette note très positive dont on parlait tout à l'heure avec Nathalie Rapoport-Hopschmann, cette jalousie que l'on peut transformer et faire dans notre vie un moteur de cette jalousie. Merci beaucoup Sophia pour votre appel et pour votre témoignage cet après-midi très positif sur cette jalousie. Merci aussi à Jordan, à Laure et à Lucie de nous avoir appelés. Merci bien évidemment à Nathalie Rapoport-Hopschmann pour ses analyses et ses éclairages. Et puis lorsque la réussite dérange, c'est parce qu'elle renvoie à certains échecs, aux propres échecs, aux ambitions qu'on a pu avoir et qui sont inassouvies. On est bien souvent son propre frein. Il faut alors oser se lancer, ne pas avoir honte de l'échec. Ne peut chuter que celui qui essaie. Je le rappelle, la réussite devrait, à mon sens, être inspirante. Chaque parcours de vie, une source d'enrichissement. Comme Sophia, vous voyez, il est possible de faire de sa jalousie un moteur et une force. Des coachs peuvent vous aider à transformer tout ça, vous conseiller dans vos choix et vous booster. Et moi, je vous le dis, n'oubliez pas, rien n'est impossible. Vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux.
Sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Twitter, hashtag Europe 1 et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel, vous avez le choix.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble du cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme. Comment vivre cette épreuve ? Si vous êtes atteinte d'un cancer du sein, si vous en êtes guérie, si un membre de votre entourage est atteint d'un cancer du sein, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. J'ai été ravi de passer cette heure à vos côtés et puis bien évidemment, évidemment avec Ombline. Nous vous souhaitons une très bonne journée.
Oui,
et puis nous serons très heureux de vous retrouver demain à 15h. En attendant, dans presque 5 minutes, vous retrouverez Carl Zéro et ses tontons flingueurs.
Avec Jean-Pierre Foucault et Philippe Lelouch. À demain, Olivier Delacroix.
À demain, au revoir.